De Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Pas d'agents, mais des caméras pour des PV discutables quand la vidéo-verbalisation semble dépasser les bornes. Exemple édifiant dans une ville de région parisienne pendant le premier confinement du Covid à découvrir dans un instant. Les hôpitaux en ordre de bataille, plan blanc déclenché dans 6 régions face à la 5e vague et bientôt dans toute la France, annonce Olivier Véran. Question d'organisation pour que les soignants puissent quand même souffler à Noël. Et plan B en Angleterre où Boris Johnson dégaine pour la première fois le pass sanitaire à cause du variant Omicron. Sa proposition fait pchit à Anne Hidalgo et la primaire de la gauche. Des verts aux insoumis, personne n'en veut, à part Arnaud Montebourg. Et puis dans le grand entretien, Nicolas, l'Algérie troisième génération. Ils sont petits-fils de pieds noirs, de combattants du FLN ou de l'OS. Ils se sont réunis pour proposer leur solution de réconciliation des mémoires.
Oui, proposition remise mardi dernier au chef de l'État. Il nous en parle donc dans une vingtaine de minutes en compagnie de l'historien Benjamin Stora. Appelez-nous dès maintenant, le standard vous attend. 01 45 24 7000.
Uber et Deliveroo vont-ils devoir salarier leurs chauffeurs et leurs livreurs? La Commission européenne y songe très sérieusement. Dans ce journal aussi, une chanson qui se moque de la propagande chinoise de devenu un tube à Taïwan et le grand écart à l'Opéra de Paris. Deux spectacles à l'affiche, un contemporain et une recréation à l'identique de Nijinsky.
France Inter.
Jusqu'où peut-on être verbalisé par des agents derrière leur écran? La vidéo-verbalisation, on connaît pour les PV de stationnement ou les infractions au code de la route. Mais l'on découvre que plusieurs communes l'ont utilisé pour surveiller les entorses au premier confinement, au printemps 2020. 150 PV auraient ainsi été dressés à Épinay-sous-Sénart, dans l'Essonne par exemple, adressés à des jeunes ou des ados qui assurent que personne ne leur a demandé leur attestation de sortie. Situation ubuesque, Ariane Grissel, que les verbalisés contestent sans succès pour l'instant.
À Épinay-sous-Sénart, au moins une trentaine de jeunes habitants disent avoir été verbalisés via les caméras de la ville.
Je suis allé acheter une baguette, j'ai fait une attestation. Arrivé devant la boulangerie, il y a une caméra, je reçois une amende sans avoir été contrôlé.
J'ai quand même un ami qui a déménagé à Marseille, qui a pris une amende disant qu'il était Épinay, alors qu'en fait il était à Marseille chez lui.
On ne sait pas comment ils ont nos noms, nos prénoms, alors que pourtant ils ne nous ont jamais contrôlés.
Mon compte bancaire a été bloqué pour des amendes où je n'étais pas sur les lieux en fait.
Rien ne montre sur les contraventions qu'elles ont été émises à distance. C'est donc la parole de l'un contre la parole de l'autre. Les tentatives de contestation n'ont rien donné. L'avocate Clara Gandin accompagne ces jeunes dans leur démarche.
Il y a une certaine partie de ces amendes qui révèle en fait qu'il n'y a pas eu de contrôle parce qu'on a des erreurs d'orthographe dans les prénoms, les noms. Des jeunes qui reçoivent des amendes pour d'autres personnes. À partir du moment où le PV de police fait foi, c'est très compliqué d'apporter la preuve contraire. Quand on ne sait pas qu'on est en train d'être contraventionné, on ne constitue pas de preuve, donc on ne garde pas l'attestation.
Clara Gandin a saisi la défenseure des droits face à ce qu'elle soupçonne d'être de la discrimination.
Ce sont quasiment tous des jeunes dont l'apparence physique révèle une origine africaine ou maghrébine.
Début mai 2020, la procureure de l'Essonne a écrit au maire du département pour leur rappeler que la verbalisation à distance pour non-respect du confinement était illégale après avoir constaté que la méthode était employée dans certaines communes. Joint par France Inter, le maire d'Épinay de l'époque conteste de son côté y avoir eu recours.
À l'époque, la France était en pleine première vague de Covid. Nous en sommes à la cinquième avec 61 000 nouveaux cas hier, 129 décès et pas loin de 300 admissions en réanimation. Les services de soins critiques sont désormais plus chargés que lors du pic de la quatrième vague au mois de septembre. 2500 patients y sont soignés. Les plans blancs sont donc de nouveau déclenchés dans les hôpitaux en Corse, en PACA, en Occitanie, Pays de la Loire, Bourgogne-Franche-Comté et en Île-de-France. Et bientôt dans toute la France, annonce à l'instant Olivier Véran. Pas de report massif d'opérations non urgentes, mais de quoi permettre aux soignants de voir venir avant les congés de Noël, explique Amélie Verdier, directrice de l'Agence régionale de santé francilienne à Hélène Chevalier.
La situation aujourd'hui, c'est qu'on a un peu plus de 500 patients hospitalisés en soins critiques pour Covid dans les hôpitaux franciliens. Le sens du plan blanc déclenché par l'ARS, c'est vraiment que l'ensemble des établissements de la région se coordonnent pour qu'on répartisse aussi l'accueil des patients, éviter qu'il y ait des réanimations qui soient complètement submergées par des patients Covid, même si on en a l'habitude. On n'en est pas là aujourd'hui, je voudrais vraiment insister là-dessus, mais simplement, on a vraiment besoin d'organiser les plannings. planning avec encore plus d'anticipation que d'habitude. Les soignants ont beaucoup donné depuis des mois et des mois, bientôt 2 ans. Ils ont besoin aussi de pouvoir s'organiser. Je souhaite, et je l'ai demandé aussi aux directeurs de tous les hôpitaux et cliniques de la région, qu'il y ait de la visibilité qui soit donnée sur les plannings de garde, que chacun puisse prendre des congés en ces fêtes de fin d'année. C'est indispensable et nous le leur devons bien.
Voilà, et si les pharmaciens ne veulent pas de congés le dimanche, Olivier Véran leur donne raison puisqu'il annonce aussi à l'instant pour simplifier la campagne de rappel de vaccins qu'il autorisera les pharmacies à ouvrir tous les dimanches au mois de décembre. Protocole sanitaire niveau 3 dans les écoles à partir d'aujourd'hui. Le masque redevient obligatoire à la récré. Plus de brassage des classes à la cantine et plus de sport à l'intérieur sans masque et sans distance entre les élèves. Vacances scolaires rallongées et fermeture des bars et des restaurants à minuit. Ça, c'est la décision du Danemark pour enrayer la vague. Quand Londres décide de placer au plan B face à la menace Omicron, 10 000 personnes seraient contaminées. C'est une estimation et le nombre double tous les 2 à 3 jours. Boris Johnson a donc annoncé le retour des restrictions et l'arrivée du pass sanitaire. C'est une première là-bas, notamment pour aller en discothèque au moment où le Premier ministre est dans la tourmente à cause d'une fête de Noël qui aurait été organisée l'an dernier à Downing Street au mépris des règles sanitaires. Laura Kelmus.
C'est un nouveau tour de vis en Angleterre alors que 45 000 personnes sont testées positives quotidiennement. En cause, le nouveau variant, c'est ce qu'a expliqué Boris Johnson lors d'une conférence de presse.
Omicron se propage beaucoup plus vite que le variant Delta, avec 568 cas identifiés à ce jour au Royaume-Uni et un chiffre réel certainement beaucoup plus élevé.
Alors, dès lundi, c'est le retour du télétravail lorsqu'il est possible. Il faudra également porter un masque en intérieur dans les théâtres et les cinémas notamment. Jusqu'à présent, il n'était obligatoire que dans les magasins et les transports en commun. Et puis enfin, l'introduction du pass sanitaire, une première en Angleterre. Il sera obligatoire pour les événements réunissant plus de 500 personnes debout ou plus de 10 000 personnes assises. Une mesure quelque peu surprenante alors que de nombreux députés conservateurs y étaient opposés. Mais il fallait bien détourner l'attention et que la presse passe à autre chose, oublie ces fameuses fêtes de Noël clandestines qui auraient eu lieu l'an dernier à Downing Street, alors que les rassemblements étaient interdits. Des fêtes qui mettent Boris Johnson et son gouvernement dans l'embarras depuis maintenant plusieurs jours. Londres, Laura Kelmus, France Inter.
Il est 8h07, contre l'union de la gauche le matin sur France 2, puis totalement pour le soir sur TF1.
En quelques heures hier, Anne Hidalgo a tourné Kazakh et proposé une primaire pour désigner un candidat unique à la présidentielle. Il en va de la survie de la gauche, dit la candidate socialiste à la peine dans les sondages. Mais sa proposition, à 4 mois de l'élection, a déjà fait flop. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
À part Arnaud Montebourg, personne ne suit.
Et elle est très loin de faire l'unanimité, cette idée de primaire rejetée d'emblée chez les Verts, dans l'entourage de Yannick Jadot. Les cadres de Europe Écologie Les Verts dénoncent une manœuvre politique à l'image de Julien Bayou, le secrétaire national du parti.
J'ai perçu cette proposition, qui est un peu saugrenue, il faut bien dire, comme une sorte de stratagème pour habiller peut-être un retrait. En tout cas, la candidate constate l'impasse dans laquelle est sa candidature. Elle disait encore le contraire quelques heures ou quelques jours avant. Nous disons, la primaire, elle a eu lieu. Le projet, nous avons adopté un projet, nous les écologistes. Ce qui rassemble, c'est la clarté, c'est la cohérence.
Et l'enthousiasme n'est pas plus grand dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise. Une primaire de la gauche, ça ne nous fait pas rêver, commente la députée Danielle Obono, pendant qu'Éric Coquerel évoque un chant du cygne du Parti Socialiste.
Je pense que ça montre une certaine panique et je peux les comprendre parce que je pense qu'ils n'ont toujours pas résolu la problématique qui est que le Parti Socialiste et son programme ne peuvent plus prétendre arriver au deuxième tour d'une élection et du coup ils cherchent un peu des raccourcis, mais il n'y en a pas. Donc ils sont dans une impasse, mais qu'ils ne fassent pas subir à tout le reste de la gauche leur impasse.
Même analyse chez Fabien Roussel, une primaire permet seulement de régler un problème de casting, explique le candidat communiste. Difficile d'imaginer dans ces conditions un regroupement, un rassemblement au sein même du PS. L'idée ne fait pas l'unanimité. L'ancien président François Hollande le disait juste avant l'intervention d'Anne Hidalgo hier soir. Une candidature d'union n'a de sens que si tous les candidats partagent les mêmes propositions.
Et ce soir, merci à Antoine Gignoux. Ce soir, autour d'Éric Zemmour, longue interview politique sur France 2 avec Léa Salamé et Laurent Guimier. L'agresseur du candidat d'extrême droite dimanche à Villepinte a été mis en examen hier soir pour violence volontaire et la justice enquête toujours sur les violences dont les militants d'SOS Racisme ont été victimes lors de ce meeting. Lui donnera sa première conférence de presse depuis plus de 2 ans, Emmanuel Macron, face aux journalistes cet après-midi pour présenter les priorités de la présidence française de l'Union européenne à partir de janvier. Il aura auparavant déjeuné avec Olaf Scholz, le tout nouveau chancelier allemand qui a pris ses fonctions hier et réserve donc sa première visite à la France. L'Europe qui s'apprête à réglementer les plateformes de VTC et de livraison à domicile. Uber, Deliveroo et consorts, leurs chauffeurs et livreurs seront-ils à l'avenir des salariés de ces entreprises? Une directive de la Commission européenne sera présentée ce matin, Angélique Boin, qui pourrait faire exploser le modèle économique du secteur.
Avant même qu'il ne soit dévoilé, le projet de la Commission fait s'affoler le secteur. Et pour cause, selon des fuites publiées par le Média Contexte, si cette directive était adoptée, la plupart des coursiers et chauffeurs VTC relèveraient de la présomption de salariat. La Commission va en effet établir une liste de critères qui permettront de qualifier ou non la plateforme d'employeur. Si elle détermine un niveau de rémunération à ces chauffeurs et vérifie la qualité de leurs prestations, cela pourrait suffire à l'avenir à requalifier ces collaborateurs en salariés. Ce nouveau cadre a été réclamé par le Parlement européen qui a beaucoup pesé, en estimant notamment qu'on ne peut pas priver des travailleurs de droits sociaux, salaire minimum, congés, couverture santé. Mais beaucoup d'entre eux veulent garder leur liberté, fait valoir de son côté l'association des plateformes VTC en Europe. Si on doit les embaucher, ils ne pourront plus ni cumuler les emplois, ni choisir leurs horaires. Les entreprises sont inquiètes, leur modèle économique pourrait fortement vaciller. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Après les États-Unis et l'Australie, Londres et Ottawa s'engouffrent dans le boycott diplomatique des Jeux d'hiver de Pékin. Royaume-Uni et Canada n'enverront donc aucun ministre en Chine au mois de février. Pékin, qui n'a pas été invité comme Moscou au grand sommet sur la démocratie organisé par Joe Biden aujourd'hui et demain. Réunion mondiale et ambiance de guerre froide. La Chine, premier adversaire des États-Unis économique et politique. Les sujets de crispation ne manquent pas. Il y a par exemple Taïwan, l'île que Pékin voudrait récupérer. Une chanson y connaît en ce moment un très gros succès sur les réseaux sociaux qui se moque de la propagande chinoise. Adrien Simor est à Taipei pour France Inter.
Un partenaire amoureux trop sensible qui ne supporte pas la critique. Voilà la métaphore filée par le chanteur Namiwi dans son morceau « Fragile ». Bandana sur la tête, main dans les poches, l'artiste assume le texte.
Pour moi, cette chanson, c'est une simple chanson d'amour. Mais si tu te sens visé, alors c'est que ma chanson dit vrai. Tu as le cœur trop fragile.
Et pour les Taïwanais, le partenaire toxique, c'est évidemment la Chine qui revendique l'archipel. La chercheuse Chen Yulin.
Tout le clip vidéo est rose. Et en mandarin, les petits roses, ce sont les internautes du Parti communiste chinois qui nous attaquent en permanence sur les réseaux sociaux. Quand on est taïwanais, on sait immédiatement de quoi ils parlent.
Et la Chine, d'ailleurs, s'est sentie visée et a immédiatement censuré le morceau. Pas vraiment de quoi effrayer Namiwi.
Je pense que tout ce qui est sensible mérite encore plus d'être abordé, car cela veut dire que c'est important. Et ceux qui subissent la censure, c'est le public chinois, ce n'est pas moi. Moi, je continuerai à composer de la même manière.
Et l'artiste aura a priori des sources d'inspiration. Selon un rapport de l'Institut français IRSEM paru en octobre, Taïwan est le pays au monde le plus visé par la propagande chinoise. Taipei, Adrien Simor, France Inter.
Une grève sur la ligne B du RER aujourd'hui en Ile-de-France. Les conducteurs dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et réclament des hausses de salaire. Un train sur deux entre la gare du Nord et Roissy-Charles de Gaulle. Un point retiré à l'Olympique Lyonnais. Un match à rejouer à huis clos. Les sanctions de la Ligue sont tombées pour punir les incidents du match OL-OM fin novembre au cours duquel un joueur marseillais avait reçu une bouteille d'eau sur la tête lancée par un supporter lyonnais. Et puis Lille en huitième de finale de la Ligue des Champions. Les nordistes qualifient après leur victoire 3-1 contre Wolfsburg hier soir. C'est la deuxième fois de leur histoire qu'ils atteignent les phases finales du tournoi européen.
Enfin, c'est un air de Russie, Florence, qui flotte sur l'Opéra Garnier en cette fin d'année.
Avec deux grands classiques à l'affiche. La recréation à l'identique du mythique Sacre du Printemps dans la chorégraphie de Nijinsky et une création de Sharon Eyal qui revisite le prélude à l'après-midi d'un faune. Le Ballet de Paris fait ainsi le grand écart entre classique et contemporain. Stéphane Capron.
12 minutes d'émotion, d'intensité, mais aussi de légèreté. C'est le tour de force de la chorégraphe israélienne Sharon Eyal. Sa nouvelle version du Faune sur la musique de Debussy est ancrée dans le 21e siècle. Elle l'a créée pour un groupe de 8 danseurs, dont Marion Barbeau.
On est le faune et la nymphe à la fois. On est tous maquillés pareil. On a les mêmes costumes. On est tous sur demi-pointe, on est tous et masculin et féminin à la fois. Tout est bien plus fluide et c'est très intéressant, je trouve, cette relecture aussi actuellement.
Pour le Sacre du Printemps, il ne s'agit pas d'une relecture, mais d'une recréation à l'identique, comme au soir du 29 mai 1913 au Théâtre des Champs-Élysées, lorsque les ballets russes et Nijinsky provoquent un scandale. Dominique Brun travaille sur cette reconstitution depuis des années avec les ayants droit de Nijinsky.
Ce qui est magnifique dans cette œuvre, finalement, de Nijinsky, c'est qu'elle ouvre la voie à une espèce de modernité qui est unique en son genre. Elle nous confronte avec une forme de primitivisme qui, quelque part, est indépassable et qui, finalement, est le fondement de toutes les sociétés.
Cette version restaurée, retravaillée à partir de photos et de dessins et foisonnante de couleurs, elle montre la dynamique sauvage que souhaitait Nijinsky pour son ballet.
Le Sacre du Printemps et Faune au Palais Garnier, à voir jusqu'au 2 janvier.
Merci Florence Paracuelos. La météo tout de suite, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Et une nouvelle perturbation arrive par l'ouest, Marie-Pierre.
Eh oui, Nicolas, déjà des petites pluies à Rosin, la Bretagne et l'Aquitaine, mais ces pluies seront déjà plus fortes sur le Pays Basque et les Pyrénées où il neige et des 500 mètres. Et sur les reliefs de l'Est, on a toujours aussi de la neige, des 300 mètres, des Ardennes, au Jura, au nord des Alpes, au Massif central. Près de la Manche, le vent souffle encore assez fort avec une averse possible. En revanche, sur les régions de la Normandie, à l'Île-de-France, au centre, au Limousin, votre matinée sera ensoleillée. On a des grisailles assez nombreuses de l'Alsace au Val-de-Saône, à l'Auvergne. Et vous allez voir le soleil se lever en Méditerranée, mais au prix du vent. Et en Corse, vous aurez encore des averses orageuses. Et puis le mercure est contrasté ce matin entre les moins 4 dans le Loiret et les 11 à Ajaccio. Il fait moins 2 à Bergerac, moins 1 au Mans, 2 à Bordeaux et 3 à Paris.
Et les pluies seront plus marquées dans le sud-ouest cet après-midi.
Oui, avec même une vigilance orange, pluie, inondation dès 15h pour les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. La perturbation va gagner la Normandie en descendant jusqu'aux Pyrénées et le temps restera encore humide avec pluie et neige mêlées sur le nord-est. En revanche, le temps sera plus ensoleillé des Hauts-de-France à l'Île-de-France, au centre et près de la Méditerranée, sauf en Corse. Et l'ambiance se rafraîchit. Cet après-midi, vous aurez 4 à Besançon, 5 à Metz, 7 à Lille à Rouen, 8 à Paris-Toulouse, 10 à Rennes, 11 à Marseille et 14 à Bastia.
Et merci Marie-Pierre Planchon. France Inter, 8h17.